Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Voici 33 000 ans près de Limoges, a été réalisé un des premiers calendriers lunaires gravés sur un os de renne, le fameux os de l'abri Blanchard, révélant la curiosité et la connaissance qu'avait Homo sapiens du ciel, de ses rythmes, de ses mystères. C'est donc 33 millénaires plus tard, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, que deux hommes, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, marchèrent sur la Lune, accomplissant physiquement pour l'humanité les conséquences d'une rêverie qui occupa pendant cet immense intervalle les hommes, les astronautes, les poètes, les artistes et les politiques, sur tous les continents et dans toutes les cultures, au Moyen-Orient ou en Égypte, en Amérique précolombienne ou au Japon, chez les Inuits ou en Inde ou à Paris, observatoires, travaux, peintures, zodiaques ou poèmes, accompagnèrent les étonnements des scientifiques, des rêveurs, et parfois des amoureux dans leur fascination pour l'astre de la nuit. C'est la Lune donc qui, du voyage réel de 1969 aux voyages imaginaires, est le prétexte à l'exposition qui vient d'ouvrir au Grand Palais la Lune.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Et vous aviez à l'instant la voix évidemment d'Armstrong, le premier pas sur la Lune. Et pour parler de cette exposition, j'ai le plaisir d'accueillir son co-commissaire, Philippe Malgouir. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Merci.
Vous êtes conservateur au département des objets d'art au Musée du Louvre en 2016. Vous avez été aussi lauréat de la bourse André Chastel, grand historien donc, spécialisé dans les objets d'art. On a l'impression qu'il ne s'agit pas seulement des objets d'art cette fois-ci. Vous voudriez dire que les objets d'art ont une pensée ?
Eh bien, les objets d'art, par leur caractère un petit peu périphérique, voire secondaire, hein, dans l'histoire de l'art, ils incarnent des choses, ils expriment des choses qui relèvent presque de l'inconscient, que l'art peut-être plus sérieux, l'art plus important, n'ose pas ou ne pense pas exprimer. Et la Lune joue un peu le même rôle dans notre cosmos, je crois.
Peut-être que dans les objets d'art dont vous parlez, avec lesquels vous vivez, donc au Musée du Louvre, dans lesquels il y a en eux, au fond, une rencontre entre deux choses qui est la beauté, la virtuosité certainement, et la technique. Et finalement, cette histoire de la Lune, c'est à la fois l'inspiration et la techné, c'est ces deux mondes qui se rejoignent, non ?
Exactement.
Et alors, pour parler de cette aventure, vous avez choisi d'inviter auprès de vous un ami, un philosophe, un grand philosophe, Pierre Kay. Comment allez-vous ?
Bien, merci.
Alors, vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS, vous travaillez sur ce dialogue entre la technique, la pensée, la beauté, vous êtes exactement sur ce sujet.
Oui, tout à fait, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'architecture qui a un art qui rassemble cette triple dimension que vous évoquez, science, art, politique aussi.
Et métaphysique.
Et philosophie. Et voilà. Métaphysique, oui.
Hein, c'est philosophie au sens plus élevé, je pense, du terme. Et donc, vous vous êtes retrouvé dans l'amitié de cette exposition. Vous n'avez pas intervenu directement, mais je pense par quelques conversations peut-être. Vous vous êtes retrouvé pendant qu'elle était en préparation. Qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là ?
Que le sujet était bien difficile, que la Lune est un objet qui a longtemps échappé, évidemment, aux hommes, jusqu'à cette date mémorable de 1969, mais dont l'art a eu aussi peine à se saisir, ou dont la religion a eu aussi peine à se saisir par rapport à d'autres astres, ne serait-ce que le Soleil. Et que par là même, comme le dit Philippe, la Lune questionnait l'inconscient de l'art, l'inconscient aussi des hommes par rapport à leur habitation du monde.
C'est vous qui avez regardé la Lune ou la Lune qui vous regarde dans cette exposition, Philippe? Parce qu'on a l'impression que à chaque fois, c'est l'humain qui est observé par la Lune et que à travers elle, on découvre des aspirations, des désirs de fuite, des inquiétudes, des désirs d'ailleurs qui ne cessent pas de nous proposer un véhicule pour s'échapper de la Terre où nous nous trouvons.
Je suis très heureux que vous ayez perçu l'exposition comme ça, parce que c'en est vraiment le propos le plus intime. Et d'ailleurs, nous achevons cette promenade qui va, disons, du collectif et même un peu de l'hystérie collective de juillet 69, de tout le monde collé devant sa télévision pour voir ces deux animaux de notre espèce qui marchent sur la Lune, vers au contraire le poétique, l'intime, l'intangible. Et la dernière image avec laquelle j'ai voulu accompagner longtemps, j'espère, le visiteur de l'exposition, c'est l'Endymion endormi de Canova.
Alors l'Endymion endormi de Canova, c'est une grande sculpture qui représente un jeune berger. Vous pouvez nous raconter l'histoire ?
Eh bien, c'est un homme endormi qu'on voit dans son sommeil, ce qui est le contraire de ce qui se passe dans l'art, où ce sont les dames en général qui sont livrées au regard du voyeur. Et en l'occurrence, c'est Diane Lune, qui est tombée amoureuse de cet homme, avec lequel elle n'a pas de communication, mais elle vient le visiter dans son sommeil, donc à son insu, et le caresser chastement mais sensuellement de ses rayons. Et dans le fond, cet homme qui dort, qui rêve peut-être à la Lune, c'est nous qui le contemplons comme le fait la Lune. Donc il y a cette espèce de retournement que vous avez évoqué.
Cet Endymion, c'est un personnage extraordinaire parce qu'il y a effectivement, je dirais que c'est une des clés de l'exposition. Il apparaît au centre de l'exposition avec un tableau très célèbre de Girodet, un élève de David, un des très, très grands peintres, qui a 23 ou 24 ans, après son séjour à la Villa Médicis, a peint cela. Et c'est un tableau qui avait surpris et choqué à l'époque. Est-ce qu'on peut dire pourquoi il avait surpris et choqué ?
Je pense que justement, en plein néoclassicisme, où l'homme est cette figure presque invariable du héros de marbre ou de bronze, qui a ce corps tendu et qui est dans l'action de montrer cet homme justement offert au regard dans la nuit, inconscient de son destin, et qui est le contraire de cet homme héroïque néoclassique, c'était tout à fait inattendu. Surtout pour un tableau où cet homme est montré grandeur nature. Il y a une espèce d'immersion dans l'image qui est très forte et dont on peut faire l'expérience aujourd'hui au Grand Palais.
Alors, il paraît que lorsque Canova sculptait Endymion, il se faisait lire des textes qui racontaient l'histoire pour être inspiré par l'œuvre littéraire cette fois-ci.
Oui, ses biographes rapportent ce fait que dès qu'il travaillait pour être dans ce climat à l'antique, il se faisait lire de la poésie grecque ou latine.
Alors en fait, ce que vous venez de nous dire, c'est que nous sommes aimés par la Lune.
C'est ce que nous avons choisi de penser.
Et alors, vous pensez, vous qui connaissez bien Philippe, qu'il avait prévu que le président Bush annoncerait notre arrivée sur la Lune à nouveau pour le monde occidental, en tout cas pour la technique occidentale, en 2024?
Non, mais ça c'est un programme ou une ambition américaine qui n'est pas récente, malgré les difficultés qu'a connues le programme spatial. Je sais que Philippe a rencontré le président du CNES, que cette question agite évidemment l'ensemble de la communauté de l'aéronautique. La dimension politique reste forte, hein, de même qu'il y a 50 ans, les États-Unis essayaient de faire pièce à l'Union soviétique. Aujourd'hui, les États-Unis essayent de faire pièce à la Chine, ou plus exactement, la Chine essaye de faire pièce aux États-Unis pour ce qui reste, encore symboliquement, l'expression la plus achevée du pouvoir de l'homme sur la Terre.
En fait, votre point de vue, c'est que d'avoir mis le pied sur cet astre dont nous avons rêvé si longtemps, c'est un acte militaire, c'est un acte extraordinairement philosophique ou c'est un acte poétique ?
D'abord militaire, je vais rappeler des choses évidentes, que ce soit Werner von Braun pour la NASA ou Sergei Korolev pour l'Union soviétique, ce sont essentiellement au départ des spécialistes de balistique. Bon. Je rappelle aussi que Ronald Reagan, dans les années 80, a fait fléchir l'Union soviétique autour de ce programme de guerre des étoiles, et donc a relancé, en tout cas dans l'imaginaire plutôt que dans la réalité, a relancé la puissance politique, symbolique de l'espace et donc de la Lune qui en est à l'origine. Et donc, l'espace reste symboliquement un lieu d'affirmation extrêmement fort du pouvoir, et je dirais d'autant plus fort qu'aujourd'hui, nous savons que la Terre est une. Et que donc, les luttes sont pour la maîtrise une de la Terre.
Oui, c'est-à-dire que vous pensez que cette idée peut-être de la fragmentation qu'on avait avant les années 50, qui était il y a tel continent et tel autre, qui se développe avec une certaine ignorance l'un de l'autre, en fait, ce n'est plus ça du tout aujourd'hui.
Ben, c'est ce que la conquête spatiale nous a appris, ce que la fameuse photo de William Anders, le lever de Terre, nous a appris aussi, à savoir que...
Qu'est-ce que c'est que cette photo ? Vous pouvez nous la décrire ?
Ben, c'est cette photo qui a été prise non sans peine, non pas dans le voyage d'Apollo 11, mais dans un voyage précédent, juste précédent, où l'un des astronautes a réussi à montrer comme ça que la Terre se levait comme le Soleil. Voilà, donc c'est extrêmement puissant. Mais d'une certaine façon, c'est un peu le paradoxe de cette conquête spatiale, c'est que les hommes cherchaient à étendre leurs limites, à franchir les limites. C'est la nouvelle frontière, c'est le grand thème de Kennedy aussi.
Bien sûr.
Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est les limites de la Terre, que la Terre était pas plus grosse que cette orange bleue dont parle Dua, et qu'elle était une, et qu'il fallait s'en occuper. Donc le paradoxe, c'est que au moment même où on a posé le pied sur la Lune, eh bien la conscience écologique s'est fortement développée dans les pays occidentaux.
Parce qu'on a vu que la question était globale, on pouvait plus la traiter séparément de nation
Exactement,
à nation.
Exactement.
Et alors, puisque vous évoquez ces questions du mythe de la frontière, au fond, est-ce que vous avez l'impression que il y a trois grandes étapes dans l'histoire de l'humanité, peut-être, il y en a en fait beaucoup d'autres, mais est-ce que ces trois grandes frontières qui ont été brisées, celle de Christophe Colomb, auxquelles on peut, je pense que l'Amérique a cherché à s'associer à cette idée de Christophe Colomb, d'ailleurs il me semble que l'un des véhicules qu'ils ont utilisé s'appelait Columbus ou Columbia,
Columbia
hein, c'est ça. Et ensuite, donc il y a eu ce premier pas sur la Lune, et peut-être que le troisième grand événement, c'est la victoire, je dis à ça, j'interroge le philosophe là-dessus, la victoire de Deep Blue, la victoire d'un ordinateur sur l'homme. Est-ce que c'est ça, trois grandes modifications de frontières qui se... nous ne sommes pas gagnants dans la dernière, semble-t-il.
Et puis l'immortalité de l'homme aussi, non ?
C'est dans quelques semaines.
La quatrième frontière. En tout cas, cette seconde frontière que vous évoquez est une frontière qui est beaucoup plus problématique que la conquête des Amériques, même si celle-ci nous a posé et continue à poser des questions morales. Bon. Mais avons-nous les moyens de conquérir, de terraformer Mars, puisqu'il est question aussi de marcher sur Mars en 2033? Avons-nous les moyens de cette conquête? De même qu'avons-nous les moyens de l'immortalité de l'humanité? Donc ce sont, je dirais, c'est l'aiguillon de la technique qui se cherche encore un sens.
Alors, il y a justement par rapport au sens, l'aiguillon de la technique qui se cherche un sens, la grande question du sens, c'est la question de l'homme. Et peut-être que une phrase qui est évoquée dans votre catalogue, Philippe Malgoire, c'est celle de Jung, et j'aimerais bien que nous l'écoutions à l'instant.
Les voyages spatiaux vers d'autres mondes sont encore très lointains. Tôt ou tard, l'homme devra revenir à la Terre et au pays dont il vient. C'est-à-dire l'homme devra revenir à lui-même. Les voyages spatiaux ne sont qu'une échappatoire, une fuite loin de soi, parce qu'il est plus facile d'aller sur Mars ou sur la Lune que de pénétrer dans son propre être. Mais ce qui est dangereux dans cet intérêt frénétique pour la conquête spatiale, c'est qu'il symbolise un état de complète angoisse chez l'homme. Cette angoisse semble être causée par la crainte de l'explosion de la population mondiale. D'une certaine manière, Les vols spatiaux sont la réaction instinctive à ce problème. Entretien entre Carl Jung et Miguel Serrano, le 10 mai 1961.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Nous sommes en train de parler de cette exposition La Lune qui vient d'ouvrir au Grand Palais et qui rassemble des éléments artistiques et poétiques pour l'essentiel, un peu techniques également, en tout cas liés à l'histoire des sciences, et qui nous permet d'aborder des questions anthropologiques, pourrait-on dire, fondamentales. Et on vient d'entendre Jung. Je suis avec le commissaire, le co-commissaire de l'exposition, Philippe Alguire, et le philosophe Pierre Kay. Nous parlons de cette grande question. C'est dans quel contexte cette phrase de Jung ?
En fait, je l'ai croisé la première fois dans une interview d'Aldrin, au début des années 70. Et c'est très frappant que justement cette poignée d'hommes qui a eu ce privilège inouï, il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune, le nombre en est clos pour le moment. Eh bien, ces hommes ont vécu un mal-être et une angoisse existentielle dont peu se sont ouverts, mais Aldrin l'a fait. Et c'est dans ce contexte que cette phrase apparaît. Donc c'est quand même extraordinaire de voir que c'est après le voyage que cette phrase est devenue véritablement publique. Bien qu'elle ait été recueillie quelques semaines avant la mort de Jung, ce sont vraiment les derniers mots pratiquement qu'il ait prononcés. C'est tout à fait saisissant. Et de mettre ça, de rapprocher ça dans l'ouvrage des images absolument extraordinaires imaginées par Kubrick de cet homme qui prend possession de l'espace et qui d'ailleurs perd contre l'ordinateur d'une certaine manière déjà,
oui.
Ça m'a paru extrêmement fort. D'autant plus que le film de Kubrick est, comme la phrase de Jung, antérieur à cet homme qui prend possession de la Lune et y plante son drapeau.
Parce que le film de Kubrick est quelle année ? 68 ?
68.
Donc on est un an avant la conquête spatiale.
Et élaboré, évidemment.
On parle de 2001, l'Odyssée de l'espace.
Et
il y a là, dans le film de Kubrick, également ce lien entre le très ancien, dont j'essayais de parler en introduction, donc le monolithe qui apparaît comme un signe hyper archaïque,
exactement,
comme ça, au cœur de la modernité la plus...
Et donc on comprend des premières images que ce monolithe est une espèce de mystère auquel sont confrontés les premiers hommes, comme celui de la Lune d'ailleurs, qui apparaît à toute l'humanité et sur toute la Terre. C'est vraiment incroyable. C'est un phénomène entièrement partagé. Et cet homme, au prix d'efforts absolument héroïques, arrive sur la Lune. Il y fait des fouilles, donc il creuse ce sol et il y découvre ce même objet dont il ignorait le sens des centaines de milliers d'années avant. Voilà. Donc Kubrick le fait toujours d'une manière très elliptique et très mystérieuse, mais c'est quand même une des grandes, un des grands moments de ce film, de cette leçon sur ce dépassement des limites.
Pierre, c'est un film qui vous a inspiré?
Ah, beaucoup. Et c'est vrai, Philippe le rappelait, il y a une des plus fortes, plus puissantes ellipses du cinéma et qui concerne le destin de la technique. Le singe qui envoie cet os dont il se sert, c'est le premier outil, il l'envoie dans l'air, et puis tout de suite après, on a un satellite.
Le vaisseau spatial.
Et donc, en une seconde, on a toute l'histoire de la technique. Et donc, pour reprendre votre réflexion de tout à l'heure, l'origine est une origine de guerre, brutale. C'est un outil pour frapper l'ennemi. Voilà ce
que... Oui, vous voulez dire que l'os du grand singe qui apparaît,
c'est pour
frapper.
Oui, c'est pour se battre. Et donc, voilà, c'est l'origine, c'est le destin de la technique. Et le monolithe serait alors encore en amont de cette histoire-là. Ça serait le grand mystère de la destinée humaine et qui est un mystère toujours insondable. D'où le côté monolithique, impénétrable de cet objet particulièrement évocateur.
Cette question de l'outil qui prolonge la volonté de l'homme, qui est un animal si démuni, qui n'a pas de poils, ni de griffes, ni de grandes dents, et se fabrique ces outils de puissance, on l'a aussi placé au cœur de l'exposition après l'évocation d'Apollo 11 avec l'invention de la lunette et du télescope qui lui permet déjà de dépasser...
Mais la lunette, c'est une curiosité, c'est pas une...
Ah, c'était une curiosité jusqu'à ce que Chesy décide que c'est un instrument scientifique et qu'on invente le mot télescope.
Quand je dis c'est un instrument pour la curiosité, c'est pas un instrument de guerre.
C'est un instrument de guerre. La lunette a été inventée pour observer les troupes ennemies à l'horizon. Et on a pensé qu'on pouvait aussi la tourner vers le ciel. Et à ce moment-là, quand Galilée en fait, pas seulement un instrument, mais même un système de pensée expérimentale, de science expérimentale, Chesy trouve que le nom n'est pas adapté et invente le mot grec, de racine grecque, télescope. Mmh. Pour lui donner ce statut d'instrument scientifique. Mais c'est déjà dépassé la limite que nos sens nous ont donnée.
Alors il y a un texte extraordinaire qui est évoqué dans le catalogue, mais qui est surtout un texte de toute beauté, peut-être un des plus beaux textes de Victor Hugo, c'est le promontoire du songe, et je vous propose d'en écouter un extrait. C'est justement la question du télescope, puisque Arago l'invite à regarder à l'intérieur de ce trou inouï, de ce télescope, et voilà ce qui se passe.
Les poètes ont créé une lune métaphorique et les savants une lune algébrique. La lune réelle est entre les deux. C'est cette lune-là que j'avais sous les yeux. Je le répète, l'impression est étrange. On a vaguement dans l'esprit toutes les choses que je viens de dire et d'autres de même sorte. C'est ce qu'on appelle la science de la lune. On roule cela confusément en soi et puis par aventure, on rencontre un télescope. Et cette lune, on la voit. Et cette figure de l'inattendu surgit devant vous, et vous vous trouvez face à face dans l'ombre avec cette map-monde de l'ignoré. L'effet est terrifiant. Autre chose que nous, tout près de nous. L'inaccessible presque touché, l'invisible vu. Il semble qu'on n'ait que la main à étendre. Plus on regarde, plus on se convainc que cela est, moins on y croit. Loin de se calmer, l'étonnement augmente. Est-il vrai que cela soit? C'est pas l'heure. Ce sont peut-être des mers. Ces noirceurs, ce sont peut-être des continents. Cela semble impossible, et cela est. Ce point noir, c'est peut-être la ville que Riccioli affirmait voir et qu'il appelait Tycho. Ces taches sont ceux des empires? De quelle humanité ce globe est-il le support? Quels sont les mastodontes, les hydres, les dragons, les béhémotes, les léviathans de ce milieu? Qu'est-ce qui y grince ou y rugit? Quelle bête y a-t-il là? On rêve le monstre possible dans ce prodige. On distribue par la pensée dans cette géographie presque horrible, par la nouveauté, des flores et des faunes inouïes. Quel est le fourmillement de la vie universelle sur cette surface? On a le vertige de cette suspension d'un univers dans le vide. Nous aussi, nous sommes comme cela en air. Oui, cette chose est. Il semble qu'elle vous regarde. Elle vous tient. La perception du phénomène devient de plus en plus nette. Cette présence vous serre le cœur. C'est l'effet des grands fantômes. Le silence accroît l'horreur. Horreur sacrée. Il est étrange d'entrevoir une telle chose et de n'entendre aucun bruit. Et puis cette chose se meurt. Le mouvement déplace ses linéaments. L'obscurité se complique d'effacement. L'énorme simulacre se défait et se recompose. Impossible de distinguer rien de précis. Impossible de détacher ses yeux de ce monde spectre. Quel deuil! Quelle brume de gouffre! Quelle ombre! Cela n'est peut-être pas.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous entendions Victor Hugo, ce texte extraordinaire, cette expérience de la lunette qu'il a fait avec Arago, qu'il a emmené à l'Observatoire de Paris, regarder la Lune justement. Et vous nous parliez, Philippe Malgoire, de cette question de la lunette qui apparaît, qui fascine évidemment tout de suite et qui nous permet d'avoir les premières représentations et qui sont des représentations, m'a-t-il semblé dans l'exposition, de la limite entre le clair et l'obscur sur la Lune.
Alors nous sommes vraiment extrêmement heureux de pouvoir montrer ce dessin qui nous vient d'Angleterre, qui est le premier dessin conservé d'une observation faite par l'homme de la Lune avec un instrument qu'il a fabriqué lui-même, cet outil, cet os du grand singe, comme nous disions tout à l'heure. Et Thomas Harriot, qui a réalisé ce dessin...
On est en quelle année ?
1609. Et on a la date très précise, puisqu'il a noté le jour et l'heure de ses observations. Donc, peut-être que Galilée a déjà tourné sa lunette vers le ciel, mais en tout cas, il publie l'année suivante seulement Le Messager des étoiles. Et ce qu'observe Harriot avec une lunette encore assez d'un pouvoir assez faible, il voit cette ligne qu'on appelle le terminateur entre qui sépare la partie éclairée de la partie ténébreuse de la Lune, et il voit qu'elle est comme hachurée, hésitante, et acquiert la certitude qu'il s'agit d'un relief. Et non pas de ce que disaient certains théoriciens de l'Antiquité, d'ailleurs, que c'était des vapeurs de densités différentes, puisque malgré tout, la Lune devait être un corps incorruptible dans la logique de la physique d'Aristote. Donc, si elle avait un relief, des accidents, comme on dit en géographie, eh bien, ça changeait complètement la nature, même théorique, de cette Lune qu'on pouvait observer, cartographier, et dont on pouvait nommer tous les accidents, ce qu'on a fait dès qu'on a pu établir des cartes assez précises.
Philippe Malgouir, puisque vous évoquez cette question de la façon dont les philosophes supposaient la Lune à cette époque, je serais curieux, Pierre Caille, que vous nous disiez quand est-ce que ça a commencé, les observations des philosophes, les commentaires des philosophes sur cet astre obsédant.
Oui, si on s'attache aux différends entre Platon et Aristote, on est frappé de voir quelle place occupent les astres. Pour Platon, l'astre de référence, c'est le soleil. Et le soleil, c'est une figure forte, c'est la figure du bien dans la République de Platon, qui dispense, en quelque sorte, les conditions mêmes de la vie, ou plus exactement, de l'être. C'est vraiment... La Lune, chez Aristote, a un tout autre rôle. On sait déjà... On devine que la lumière de la Lune n'est pas la sienne, qu'elle provient...
C'est un reflet.
Qu'elle provient du... Et donc, cette Lune n'est pas un astre autarcique. C'est le grand mot de la philosophie,
ah, oui.
De la philosophie grecque. D'être totalement autonome, de vivre entièrement de son cru, de sa puissance, de son essence.
Ce que vous nous dites, c'est que Louis XIV était platonicien et non pas aristotélicien. Hein, c'est ça.
On a beaucoup glosé sur le roi soleil, mais il a aussi dansé dans des rôles beaucoup plus,
c'est vrai,
oui,
vous avez raison,
beaucoup plus modeste et joyeux aussi, moins fortement symbolique. Je reviens à Aristote. Donc la Lune ne joue pas du tout le même rôle que le soleil chez Platon. C'est une limite, la Lune, la limite entre ce qu'Aristote appelle le monde supralunaire. C'est-à-dire le monde où les mouvements sont réglés, nécessaires, dont on peut faire une science, et puis le monde infralunaire, le nôtre, celui qui est un monde accidentel, qu'on a peine à comprendre, qui peut même prendre une dimension tragique, si on mesure les limites de la morale aristotélicienne. Et donc, la Lune est un seuil, et ce rôle de seuil va jouer, je crois... Philippe a beaucoup de réflexions là-dessus, va jouer un rôle important dans la symbolique de la Lune.
Mais quand vous dites dans la symbolique de la Lune, c'est-à-dire non seulement dans son contenu symbolique, mais Philippe, également dans son effet sur les humains.
Bien sûr.
Parce qu'on l'observe et on dit...
La Lune, c'est l'au-delà qu'on entrevoit.
Oui.
Et d'ailleurs, le seuil, c'est pas pour rien si l'image, l'icône même dont on a programmé la fabrication, c'est l'empreinte de ce pied d'Aldrin, qui avait, oui, ça dans ses missions, de prendre la photo de ce pied dont j'aime à penser, même si peut-être Aldrin n'avait pas fait de latin, que c'est quand même le vestige, l'empreinte,
oui,
du pied.
Parce
de l'homme.
Parce que c'est en vestigio, en latin, c'est ça?
C'est l'empreinte vestigio. Du pied, c'est extraordinaire.
Ouais.
Donc on fabrique le vestige en sachant que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc cette empreinte, elle est toujours... pratiquement dans l'état où Aldrin l'a laissé, et peut-être pour l'éternité, ou en tout cas ce long temps de l'homme que...
Peut-être qu'un jour, quelqu'un ira sur la Lune et dira « mais c'était vendredi ». C'est le même pied que celui de vendredi, probablement.
Exactement. Donc, c'est un seuil. Et d'aller sur la Lune, c'était comme franchir un pas. Werner von Braun, qui, je pense, a dicté d'ailleurs à Armstrong sa phrase, parce qu'il a dit dans une conférence de presse presque la même chose avant Armstrong. Et Armstrong, qui était un homme très préparé, n'a sûrement pas inventé en descendant de l'échelle cette phrase historique, avait dit avant, c'est l'événement le plus important depuis que la vie est sortie de l'eau. Donc vous voyez la place qu'il donnait à ça dans l'histoire de l'humanité, du développement de la vie même. Donc c'est un seuil, et dans l'Antiquité était perçu comme tel, puisque par exemple les âmes qui sont en attente de leur devenir définitif, eh bien vont transiter par la Lune. Hécate, qui préside à une partie de l'exposition, cette déesse inquiétante, elle est la déesse des portes et des seuils. Donc c'est le premier pas vers l'au-delà, cette espèce de porte inquiétante, mais proche en même temps, puisqu'on peut deviner, même à l'œil nu, qu'il y a des montagnes. C'est un lieu où on pourrait peut-être survivre.
Alors avec elle, on essaye de saisir plusieurs choses. Vous parliez d'Aristote, Pierre, tout à l'heure. Il y a la théorie des humeurs qui commence, il y a une vision médicale de la Lune. Là, vous évoquez des seuils de perception du destin, en fait. Hein. Et donc là, on est plutôt essayer de deviner dans les humeurs de la Lune, dans sa croissance, sa décroissance, sa relation par rapport à notre ciel de naissance, sur son effet, la mélancolie qu'elle propose ou autre chose. Écoutons un instant un extrait, d'ailleurs, d'un guide astrologique du XIVe siècle. Donc on est exactement dans le sujet, qui nous dit de quoi il s'agit.
Tu ne feras rien à la tête quand la lune est en bélier. On plante un arbre quand la lune est dans le taureau. Quand la lune est dans la vierge, ne prends pas femme. Quand le scorpion domine, garde-toi de monter dans un navire. La lune en sagittaire, tu pourras couper ongles et cheveux. Quand la lune est dans les poissons, l'embryon sort épileptique du ventre. L'un des feuillets de ce calendrier explicatif porte ainsi 36 conseils relatifs aux propriétés de la Lune au moment où elle entre dans les 12 signes du zodiaque. Calendrier perpétuel portatif, folio 13.
Retiendront chacun de ses conseils et ne se couperont pas les cheveux quand la Lune n'est pas en Sagittaire. Donc une fois par an en Sagittaire, il faut y aller. Hein, c'est quelque chose comme ça, Philippe.
Oui, c'est drôle parce que c'est un calendrier portable, donc il rentre dans une petite housse, donc qui est du 14e, qui est conservé au Louvre, et qui était sûrement composé pour un médecin, pour l'aider dans ses diagnostics. Donc il ne s'agit pas du tout de sciences occultes, mais dans la science médiévale, et héritière de la science antique, d'ailleurs, de ce point de vue-là, une chose tout à fait, une donnée objective et
mais observée. Comme dans la théologie, comme dans le... On voit, par exemple, à la Villa Médicis, un ciel particulier qui a une influence sur ceux qui dorment en dessous, n'est-ce pas? C'est quelque chose que vous connaissez bien, vous, à la Renaissance, j'imagine.
Oui, mais je voudrais revenir sur ces bons conseils, en ce sens que c'est une sorte de préfiguration bien confuse, une intuition de la gravité universelle. Et lorsque, deux siècles plus tard, Galilée reviendra sur l'influence de la Lune sur les marées, oui. C'est la même idée. C'est la même idée, vous savez, pour les plantes, la Lune est censée,
oui, vous avez raison,
aspirer de... la sève.
Parce que quand on l'écoute, on sourit, mais en fait, vous avez raison, en fait, il y a un effet réel.
Et Galilée explique les marées au moyen de la gravité.
Bien sûr.
Voilà. Et en réalité, lui a trouvé quelque chose de scientifiquement exact, mais que ses conseils pressentaient de façon extrêmement confuse et évidemment non expérimentale.
La gravité, l'attraction qu'exerce la Lune sur l'ensemble des liquides, et dont les liquides humains, évidemment.
Et d'où les conseils agricole, sur l'agriculture.
Bien sûr.
Avec les poussées de sève, les, voilà.
Philippe?
Et les cartésiens du XVIIe siècle, d'ailleurs, étaient heureux d'avoir cette possibilité de rabouter, en quelque sorte, la tradition antérieure et les observations les plus modernes. Donc on expliquait pourquoi les lunatiques étaient des lunatiques, parce que le cerveau est l'organe qui contient le plus d'eau. Donc nécessairement, la lune a plus d'effet sur cet organe que sur les autres, et les gens qui sont déjà faibles, eh bien, sont emportés à cause de son influence néfaste jusqu'au suicide.
Alors, j'ai plein de choses à vous demander, Philippe, vous vous en doutez, puisque vous avez conçu, semble-t-il, avec une longue passion, hein, cette affaire, parce que il y a dans l'exposition, il y a beaucoup de livres dans l'exposition, et des livres qui manifestent une modification, au fond, de la pensée poétique autour de la question de la Lune, au cours des siècles, dans les récits, par exemple, de sa conquête. Ça commence très tôt.
Alors,
oui, je pensais à Samosate,
ça commence avec Lucien de Samosate, l'histoire véritable, qui est, comme le dit Lucien, où la seule chose véritable, c'est que tout y est faux, et où la Lune est une véritable utopie au sens strict, c'est-à-dire un lieu où on n'ira pas, mais où on peut tout imaginer. Et donc, c'est un lieu de licence, d'absurdité, du plaisir, du mensonge le plus outrancier.
Mais le voyage est quand même... c'est intéressant, la façon dont il décrit dans ses livres successifs, entre le 2e et le 18e, 19e, il y a des véhicules à chaque fois pour y aller.
Exactement. Et ce que fonde Lucien, malgré tout, c'est par exemple ce bateau emporté par une tempête qui voyage jusqu'à la Lune, qui pour Lucien est juste un mensonge. Eh bien, dans les avatars complexes des rédactions des aventures du baron de Münchhausen,
oui,
un des voyages du baron vers la Lune se fait comme dans le voyage de Lucien. Cette question du véhicule, c'est la vraisemblance donnée à l'invraisemblable.
Alors, un des plus beaux, c'est Cyrano, probablement.
Oui, c'est un livre extraordinaire dont on comprend même pas comment on a pu en autoriser la publication, parce que Cyrano, sous couvert de lune, se permet de dire ce qu'il était absolument d'exprimer au XVIIe siècle, de douter de l'immortalité de l'âme.
Vous pouvez nous rappeler comment le stratagème qu'il a utilisé pour s'élever?
Avec justement un modèle pseudo-scientifique, il s'attache des petites bouteilles avec de la rosée, et donc comme la rosée, par un processus mécanique décrit au XVIIe siècle, était attirée par le soleil et donc vaporisée, eh bien il imagine s'envoler comme ça vers la Lune.
Avec quelques bouteilles.
Voilà. Mais c'est le diable qui le ramène sur Terre.
Pierre, vous vouliez dire quelque chose là-dessus?
Oui, alors c'est vrai que c'est la grande tradition des libertins érudits.
Oui. Mmh.
Donc effectivement, qui remettent en cause l'immortalité de l'âme, qui remettent en cause l'existence de la providence divine.
Mais il faut bien qu'il y ait un endroit tranquille où on peut faire des bêtises, n'est-ce pas? Donc la Lune sert au moins à ça. Et d'ailleurs, les amants s'y retrouvent. Dante, Dante s'y retrouve avec Béatrice. Et puis c'est aussi un lieu des choses perdues. Je sais pas, l'Arioste peut-être, est-ce que c'est pas...
Et oui, c'est au centre du Roland furieux, puisque Roland, devenu fou, a perdu la raison. Et cette raison, Castolfo aille la chercher dans la Lune. Donc c'est un joyeux mélange d'antiquité et de christianisme, puisque c'est le char d'Élie, l'hippogriffe, Saint Jean l'évangéliste. Donc il a toutes sortes de compagnons dans cette quête. Et sur la Lune, il y trouve toutes sortes de choses, les illusions perdues par les uns, les flatteries dépensées par les autres, et finalement aussi la raison de Roland.
Alors, il y a une chose quand même qui se transforme, c'est que à partir de quand, d'ailleurs, vous allez me le dire, du fin 18e, début 19e, le voyage dans la Lune est décrit, même romanesque, est décrit avec des soucis, une inquiétude scientifique, semble-t-il.
Alors, on peut presque mettre un moment sur cette apparition, puisque elle débute très curieusement avec un double canular, The Great Moon Hoax, donc de ces gens qui, dans la presse américaine, ont fait croire que le télescope d'Herschel avait observé des créatures sur la Lune, et les gens ont cru que c'était vrai, parce que ça se présentait comme une nouvelle scientifique, et ça coïncide avec l'apparition d'une nouvelle d'Edgar Poe, qui décrit une imposture, donc un fabricant de soufflets couvert de dettes qui fait croire qu'il est parti dans la Lune toutes ces années, qu'il y a fait des découvertes formidables et que si on lui remet ses dettes, eh bien, il livrera aux astronomes de Rotterdam le fruit de ses observations.
On y a cru, j'ai l'impression. Ça a convaincu.
Et donc là, dans la nouvelle de Pau, évidemment, la posture est révélée par l'auteur. Mais Pau, ensuite, ayant été accusé de plagiat face à ce canular journalistique, a dit que lui, pour la première fois, contrairement à Cyrano, à Lucien et les autres, avait voulu que le voyage soit vraisemblable. Et dans le fond, ce canular, il est aussi le premier essai de science-fiction. Qui va être la piste que ensuite Jules Verne, les ouvrages de Jules Verne sont presque avant tout pédagogiques. Il y a beaucoup d'informations exactes qui sont données sur la formation de la Lune, sur sa distance à la Terre, la vitesse de la lumière, etc. Et d'ailleurs, Jules Verne évite la question d'arriver sur la Lune parce que la plus grande difficulté, c'est pas d'y aller, c'est de repartir. Donc il les laisse en orbite et comme ça peut ramener ses passagers.
Alors, il y a un moment qui est très très curieux. Moi, je ne connaissais pas l'histoire. Un moment dans lequel on a accès dans l'exposition à un film, c'est le film de Fritz Lang, le dernier film muet de Fritz Lang. Et j'aimerais bien que vous nous en disiez un mot. Vous l'avez vu, Pierre, peut-être, ce film?
Je l'ai découvert dans l'exposition.
Parce qu'il y a un travail de conseil qui lui a été fait, qui a l'air curieux.
Alors je l'ai découvert, Philippe en parlera plus savamment que moi. J'ai été, assez amusé par les effets spéciaux. Ce ne sont pas les premiers, évidemment, mais par le côté un peu ludique de cette aventure qui, d'une certaine façon, tranche avec Metropolis.
Oui, Mais ce qui est curieux, c'est qu'il a pris conseil réellement. Avec qui a-t-il travaillé? Parce que, et ça a eu des conséquences politiques, cette fois-ci.
Tout à fait, puisqu'il s'est associé à une jeune équipe de fous de l'espace et des fusées.
On est en quelle année, là?
Le film est sorti en 1929.
Donc un club de passionnés de l'espace.
De passionnés de fusées, en particulier. Ouais. De ce type, pas d'avion, mais de ce type de propulsion qui va être d'ailleurs l'avenir de la conquête spatiale. Et parmi ce club de passionnés, se trouvait le jeune Werner von Braun, comme d'autres. Quand le film, après que le film fut sorti et que donc les nazis aient pris le pouvoir, la Gestapo a même fait détruire tous les modèles, tout ce qui avait servi à projeter ce film, faire le projet de ce film, considérant qu'il y avait une matière là, pratiquement, qui relevait
du secret défense,
et a embauché d'ailleurs tous ces jeunes passionnés pour fabriquer ce qui seront les V2, et donc la préhistoire de Saturne V et des porteurs
soviétiques. Vous dites la préhistoire de Saturne V parce que von Braun et son équipe, après la guerre, ont été recrutés par la NASA et aussi d'ailleurs par les Français d'ailleurs.
Et
par les Soviétiques.
Qui ont bénéficié les uns et les autres, soit des archives, soit des hommes, soit des deux. Et ça explique aussi que la France ait une place dans cette course à l'espace parmi les pays européens. Tout ça étant issu d'une certaine manière des recherches de l'armement nazi, ce qui est un paradoxe extraordinaire de cette conquête pacifique au nom de toute l'humanité qui s'est faite.
Les Américains l'ont avoué, mais pas les Français tellement, en fait.
Non, seulement dans les années 90, donc très récemment, on a commencé à publier, d'ailleurs grâce aux gens du CNRS, ces archives sur les débuts de l'aérospatiale française.
Alors Philippe, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est pourtant central dans votre exposition, c'est la triple E4, vous l'avez à peine évoqué tout à l'heure, et c'est quoi les trois visages des E4, et qui est E4 d'ailleurs?
Alors la déesse E4, c'est une des formes de la Lune, mais c'est pas seulement une Lune. D'ailleurs, il n'y a pas de déesse de la Lune, il y a des déesses qui ont la Lune comme un de leurs aspects, et elle prend de multiples formes. Mais cette E4, c'est peut-être sa forme la moins connue, à la différence de Diane ou de Luna. C'est une déesse propice, puisqu'elle est fertile, elle protège les femmes enceintes, donc d'un moment de passage, et elle préside aux portes. Il y en avait une à l'entrée de l'acropole d'Athènes, qui présidait la protection des propylées. Mais elle est aussi la déesse du passage vers l'autre monde. Elle est une déesse un peu sorcière qu'on peut invoquer.
Donc c'est la lune, ça c'est la lune maléfique un petit peu, c'est la lune noire.
C'est une lune qui est ambivalente, et ses trois visages identiques mais changeant de manière constante, si on peut dire.
Vous en avez fait ces trois visages, vous en avez fait la structure du cœur de l'exposition, finalement. J'ai l'impression, ces trois visages vous ont donné la méthode.
Exactement. Puisque, cette lune, elle est à la fois propice, c'est cette lueur bienveillante dans la nuit, elle est à la fois effrayante, puisque c'est ce lieu de passage vers l'autre monde, et ce changement permanent est à la fois, bon puisqu'il est, il permet le calcul du temps, hein, comme vous l'avez dit au tout début, mais c'est aussi une image de l'inconstance, de l'instabilité, de l'impermanence, à la différence du soleil qui lui est toujours là et brille toujours du même éclat. La lune est éclipsée, elle disparaît trois jours par mois. Donc la lune est un objet fuyant et qui, comme je le disais, contient sa propre déception. C'est un objet faccinant et décevant en même temps. Anaxagore disait déjà que c'était un caillou dans le ciel, c'était pas une déesse. Et il a été banni d'Athènes pour avoir dit cela.
Alors qu'est-ce qu'on réunit quand on a ces trois orientations dans une exposition? On se dit, je vais faire une collection iconographique autour de ces trois sujets. Comment est-ce qu'on travaille?
Alors, tout ce que nous avons fait avec Alexia Fabre, qui a conçu cette exposition avec moi, ça a été vraiment à partir des œuvres. On n'est pas arrivé avec une théorie sur la Lune, que d'ailleurs nous n'avons toujours pas, mais en se disant de quoi parlent les œuvres qui parlent de la Lune. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à cette idée de ces trois visages, en voyant qu'il y a ce mythe d'Endymion, évidemment, qui est cette Lune non seulement bienveillante, mais même qui aime l'humanité à son insu. C'est absolument magnifique. C'est la Lune qui protège les amoureux dans l'intimité des ténèbres. Et ensuite, évidemment, cette question de la lune changeante, de la lune qui va présider aux fêtes religieuses, par exemple, qui ont en quelque sorte fossilisé ces premiers calendriers lunaires. Moi, l'idée du mois, comme l'idée de menstruel hein, pour les cycles de la femme, vient immédiatement de la lune. Et donc, évidemment, le début du mois du Ramadan, les mois religieux musulmans.
Il y a un tableau très étrange, d'ailleurs, que je trouve très beau. C'est un tableau, vous allez nous dire de qui il est. Ce sont un groupe de musulmans au flanc d'une montagne, des nomades, pour des bédouins peut-être, et qui observent et doutent, est-ce que la lune va apparaître, est-ce que c'est le premier quartier, et c'est pourquoi.
C'est un tableau d'Étienne Dinet, qui est ce peintre français tombé amoureux de l'Algérie, qui s'est d'ailleurs converti à l'islam, et qui montre ce moment de doute et de tension à qui sera le premier à entrevoir ce premier filet du premier quartier qui marque le début donc du mois de jeûne du Ramadan.
Vous l'avez vu ce tableau, Pierre ?
Oui, tout à fait. Oui, mais j'ai été d'une certaine façon, j'ai été frappé par la présence de la lune dans toute cette tradition picturale qui, signifie à chaque fois un mystère et un mystère jamais facilement, quasiment insoluble. Hein.
Oui, parce que le religieux dans l'exposition, c'est le cœur de l'exposition néanmoins, voit, alors je ne parle même pas de la Mésopotamie évoquée, etc., mais même dans le christianisme, on voit cette Vierge sur la Lune associée à la question de l'Immaculée Conception, par exemple.
Ah oui, tout à fait, oui, tiré de, selon iconographie établie à partir de l'Apocalypse de Saint Jean. Et cette question d'ailleurs du rapport de la Vierge à la Lune n'enthousiasmait pas les théologiens, parce que évidemment, c'est la pureté, mais c'est un astre qui a des taches, qu'on voit.
Ah oui.
Alors la Vierge Lune, c'est évidemment parce qu'elle n'a pas sa propre lumière. La Vierge n'est pas Dieu, elle ne fait que refléter une
éternel
lumière empruntée.
Reflet d'un unique soleil, voilà.
Oui. Exactement. Mais il y a une idée aussi qu'on a peut-être moins soulignée, mais qu'on saura voir dans l'exposition, c'est que la Lune, pour les théologiens, c'est l'humanité du Christ. C'est-à-dire qui resplendit de sa divinité, mais qui est périssable. Et il y a deux œuvres très saisissantes, je crois, qui évoquent cet aspect. C'est le chef-d'œuvre de Gay qui vient de la galerie Tretiakov, où on voit le Christ quittant le Cénacle et donc allant vers sa passion, déjà dans le groupe des disciples qui se défait autour de lui, et qui contemple la Lune qu'on ne voit pas, presque d'une manière interrogative.
Donc c'est un balcon, petite construction à côté, comme le haut d'une tour.
Qui est le Cénacle, en fait.
Qui est le Cénacle, c'est ça. Et puis les autres humains qui sont là se détournent.
Il est seul à cette clarté lunaire qui est comme l'annonce de son destin qu'il accepte, c'est-à-dire de sa propre mortalité.
Et alors, cela dit, la forme de la Lune de certaines des vierges qui sont là apparaît véritablement comme étant le vase. Hein, elle est le vase d'une certaine façon, non? Ça vous paraît exagéré de...
Non, et j'ai choisi cette estampe de Dürer où elle est comme dans un petit bateau qui vogue dans le ciel avec cette image tellement confortable, on a envie de dire, de cette Vierge à l'enfant bien installée dans ce petit vaisseau cosmique. Et Parce que la Lune, c'est ce qu'on choisit de croire. Ce n'est pas ce qu'on croit par superstition. Et tout le monde sait que le croissant, c'est un effet optique du fait qu'une partie de la Lune, qui était un globe, est obscurcie. Eh bien, c'est quand même cette Lune-là qu'on aime. C'est ce croissant, ce petit bateau dans lequel on peut venir s'allonger comme un pierrot dans un hamac.
Alors, il y a un tableau qui est extraordinaire. Moi, je connaissais pas. Il semblerait que ce soit un tableau très connu. Hein, c'est le tableau de Kuindji, un artiste ukrainien, un tableau de 1882 qui s'appelle Nuit de clair de lune sur le Dniepr. Vous connaissez, vous aviez vu ce tableau, Pierre? Non, vous l'avez pas vu?
Il y a plein de choses à découvrir dans l'exposition sur la lune, effectivement. Et
c'est, drôle parce que c'est une lumière verte comme ça qui est vénusienne. Hein, le vert, c'est Vénus. Hein, donc qui traverse, parce que il y a souvent un lien dans l'exposition entre la lune et Vénus. Hein, curieusement, on le voit souvent. Mais là, c'est vraiment un tableau extrêmement simple. Il y a 3-4 maisons qui laissent évoquer qui évoquent une présence humaine, un immense fleuve qui s'argente sous l'effet de la lune, un ciel noir dans lequel la lune court. Hein, quand on voit les nuages passer, on a l'impression que la lune court. Et ce tableau dégage une lumière. On a l'impression que la lumière vient de derrière l'image. C'est quelque chose comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe?
C'est un tableau dont vraiment. Il est très célèbre en Russie et depuis qu'il a été exposé, puisqu'il y a une exposition quand il a été peint avec ce seul tableau. Et les gens faisaient la queue à pied et en carrosse dehors pour voir ce tableau, pensant qu'il était éclairé de l'intérieur ou qu'il avait été peint avec les substances découvertes par Mendeleïev ou qu'il y avait un mystère insondable dans cette image.
C'est une des œuvres, mais il y en a, on pourrait les citer presque toutes. Pierre, vous qui avez vu cette exposition, qui avez participé aux conversations, j'imagine, inquiètes du curateur, du commissaire, toujours probablement nerveux, se disant avant, mais est-ce que je vais réussir à être compris, etc. Comment vous avez vécu ce que vous avez vu par rapport à ce que vous aviez entendu auparavant?
Mais je trouve que c'est un tour de force parce que l'objet je le disais tout à l'heure, ne se laisse pas saisir si facilement et nous l'avons expliqué, c'est un objet décevant. Il est toujours difficile pour l'art d'exprimer des objets scientifiques et celui-ci l'exposition l'a bien montré, la Lune réussit à faire la synthèse entre une approche véritablement scientifique, voire technique, et puis un imaginaire qui est aussi puissant que l'imaginaire auquel a donné lieu le soleil. Et j'ai trouvé que cette articulation était particulièrement bien rendue dans l'exposition du Grand Palais.
Alors il y a un aspect qui manque un peu, je vais vous le faire écouter et vous allez me dire comment on le retrouve, parce qu'il y a une façon, évidemment vous avez pensé à tout, pour nous de le retrouver.
Le voleur a tout pris,
sauf la lune.
Sauf la lune à la fenêtre. Tout le monde dort. Rien entre la lune et moi. C'est Fujo.
Donc deux haïkus que nous venons d'entendre sur la lune parce que il y a une absence dans l'exposition, on pourrait le croire en tout cas, qui est la fascination qu'ont les Japonais, qu'a la culture japonaise pour la Lune, qui apparaît parfois dans un bol de thé, parfois dans des cérémonies très simples, dans tout le zen. Bien entendu, c'est pour ça que je voulais vous faire écouter ces deux haïkus du XVIIIe siècle. Le premier c'est Ryokan, le deuxième c'est Fujo. Et pourtant, effectivement, au début, il y a quelque chose qui est très très beau. Ça s'appelle Moon TV de Dame June Pike et qui est une des très belles œuvres de l'exposition. Vous vous en souvenez? Comment est-ce vous pourriez nous la décrire, Pierre?
C'est
11 téléviseurs.
Oui. Hein? Et ben j'ai trouvé ça alors ils sont magnifiquement disposés, hein, avec beaucoup de rigueur, une rigueur quasi cosmologique, et je pense que cette rigueur est véritablement calculée. Il y a une évidence, hein, puisque c'est la succession, hein, des quartiers, jusqu'à la pleine lune. Il y a une évidence et qui dit effectivement cette singularité, puisque pour tous les autres astres, la logique de notre vision est tout autre. Cette singularité qui est l'occasion effectivement d'une grande poésie.
Alors, j'aime beaucoup cette œuvre parce que donc c'est une déformation électronique obtenue par des aimants posés sur des téléviseurs. Mmh. Et on voit dans cette Moon TV que la télévision aujourd'hui, cet écran, cette technologie, est une fascination qui, cette fenêtre lumineuse comme ça, qui est la suite de quelque chose d'incroyablement ancien et qu'on voyait ou qu'on pouvait deviner dans des haïkus, qu'on pouvait voir dans les moon jars coréennes du XVIIe siècle, qu'on pouvait voir... voilà, je trouve que ça montre la permanence jusque dans l'électronique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, mais tout à fait. Et nous voulions à la fois montrer la permanence de de toute façon, le phénomène s'offre à nous constamment, mais aussi ne pas être dans l'idée que cette fascination est obligatoire et permanente. Parce qu'elle ne l'est pas. Il y a plein de lieux, de moments où on s'intéresse pas à la Lune et même pas du tout. Et le fait qu'on choisisse de s'intéresser à la Lune et que c'est pas une admiration obligatoire, peut-être comme peut l'être celle du Soleil, qui est peut-être plus autoritaire, nous avons voulu le montrer aussi dans l'exposition, même par l'arbitraire des choix que nous avons faits et de ce que nous n'avons pas montré.
Alors, peut-être que c'est l'occasion d'écouter Arthur Ashe néanmoins. Écoutons-le, lui aussi nous parle de la Lune.
Dans l'obscure clarté, tu me devines. Tu sens quelque chose qui te frôle. Si tu veux, je suis l'homme sirène. Ce sont mes deux mains, les blanches murennes. Les dream, to the end of the moon. Love me, till I'm gone with the moon.
C'est donc Arthur Ashe, bien entendu, Baiser de la Lune, d'un album de 2013 et qui vient conclure notre émission. Je tiens à vous remercier, Philippe Malguir, pour cette exposition que vous venez de faire, mais surtout pour le catalogue, que je trouve un catalogue, une somme sur cette fascination qui nous a tous fascinés. Merci Pierre Caille d'avoir accompagné le commissaire dans sa préparation par l'amitié et les conversations. Merci à tous les deux.
Love me till I'm gone with the moon, yeah.
Eh bien, donc, merci à tous les deux. C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'exposition La Lune. L'exposition qui est au Grand Palais. Jusqu'à quand, Philippe?
Jusqu'au 21 juillet. Anniversaire oblige.
Anniversaire oblige, parce que c'est le 21 juillet, l'anniversaire de quoi?
Des 50 ans de l'homme sur la Lune.
Ah, c'est le 21 juillet, mais bien sûr. Voilà, Pierre. C'était donc L'art et la matière en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. J'ai reçu aujourd'hui Philippe Malguir, conservateur au département des objets d'art du musée du Louvre, et Philippe Caille, philosophe et directeur de recherche au CNRS. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes de Laurent Sauvage, une émission préparée par Héloïse Alluin et conçue en collaboration avec Seam Boutata, prise de son Frédéric Changenet, réalisation Guillaume Baldi. La semaine prochaine, nous parlerons de l'exposition Les Nabis et le décor qui a lieu au Musée du Luxembourg. Et à 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.
La nuit nous amène au baiser de la lune. La nuit nous amène au baiser de la lune.